8h13 sur Europe 1, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, le porte-parole du gouvernement.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Gabriel Attal.
Bonjour.
Évoquons d'abord un rapport important car il va éclairer la présidentielle. Le rapport du gestionnaire du réseau électrique français sur les différents scénarios pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Selon ce rapport, l'éolien et le solaire bien sûr devront être développés, mais surtout le nucléaire reste très compétitif. Plus on garde et on développe le nucléaire dans le mix, plus ce dernier sera décarboné et bon marché. Est-ce que vous estimez que ces conclusions du rapport sont pertinentes ?
D'abord, c'est une bonne nouvelle, ce rapport, parce qu'il montre une chose, c'est qu'arriver à la neutralité carbone en 2050, sortir du pétrole, c'est possible. Et c'est une bonne nouvelle pour la planète, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour les Français, pour nos enfants, parce que ce qu'on vit aujourd'hui, notamment avec l'augmentation des prix de l'énergie, cette dépendance qu'on a aux fossiles et donc à des prix qui augmentent pour des raisons mondiales, on aimerait en sortir. Et donc pour ça, c'est une bonne nouvelle. Et ce rapport, finalement, il nous donne une carte et une boussole pour y arriver, avec différents scénarios. Et ce que ça montre, effectivement, d'abord, c'est qu'on va avoir besoin de tout. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin du renouvelable et qu'on va avoir besoin du nucléaire, en tout cas dans la plupart des scénarios.
Surtout du nucléaire quand on lit attentivement le rapport.
En tout cas, dans la plupart des scénarios, on aura besoin aussi du nucléaire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut continuer à investir dans tout, en tout cas à court terme. Parce que la réalité, c'est que dans les 15 années qui viennent, la demande d'électricité va augmenter de 20%, parce qu'on électrifie de plus en plus d'usages pour la voiture, pour l'industrie, etc. On ne peut pas sortir des centrales nucléaires de terre en 15 ans. Donc il va falloir continuer à investir sur le renouvelable.
Mais avec quel mix, Gabriel Attal? Parce que RTE dit précisément qu'un système 100% renouvelable est techniquement possible, mais que ça coûterait extrêmement cher et il faudrait en plus de nouvelles technologies. Bref, ils enterrent déjà le 100% renouvelable. Ça, c'est sûr.
Ce qu'ils disent, c'est que ça serait une contrainte très forte en termes de coût, effectivement. Et à la fin, le coût, il se répercute sur la facture des Français. En termes aussi d'installation sur le territoire. On voit les débats qu'il y a aujourd'hui à chaque fois qu'une éolienne ouvre. Si on voulait arriver dans le scénario du 100% renouvelable, il faudrait arriver, je crois, à 35 000 mâts d'éoliennes sur notre territoire. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 8 000. Donc, on voit bien la marche à franchir. C'est un défi industriel. Et encore une fois, ça coûte de l'argent. Donc, ça, finalement, ça valide ce qu'on dit depuis maintenant un certain temps. C'est-à-dire qu'on veut continuer à investir dans le nucléaire. Le président de la République l'a dit au moment de la présentation du plan France 2030. On va notamment investir pour développer des SMR, c'est-à-dire des petits réacteurs nucléaires, développer
un prototype. Nous n'avons pas encore la technologie. Donc la question, c'est est-ce que, compte tenu de ce rapport, est-ce qu'aujourd'hui vous allez officialiser, en tous les cas annoncer plus rapidement, la construction de ces 6 nouveaux EPR?
Alors ce rapport, il présente, je le disais, 6 scénarios, il faut maintenant qu'il soit discuté, c'est intéressant que les formations politiques s'expriment, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de responsables politiques dans un contexte de pré-présidentiel qui font de l'idéologie avec ces sujets-là. Et en gros, ce que dit ce rapport...
Et vous n'en faites jamais.
Non mais ce que dit ce rapport, je crois pas justement, ce que dit ce rapport, c'est que ce qui explique qu'on peut priver des énergies renouvelables, arrêter de construire des éoliennes, ou voire supprimer les éoliennes, tout comme ceux qui disent qu'on peut sortir brutalement du nucléaire, ils nous promettent une chose... C'est de nous éclairer à la bougie dans les 15 ans
qui
viennent.
Là, vous me faites du en même temps, Gabriel Attal.
Non, ce que je vous dis...
Quelle est la position médiane que vous allez adopter entre le 100% renouvelable qui n'est pas possible et le 100% nucléaire qui n'est pas évidemment la voie qui va être choisie? Alors, quel est le mix du gouvernement?
D'abord, c'est de ce que je vous disais au début de cet échange, c'est-à-dire continuer à investir dans les deux. Quelle part, quel programme éventuellement de relance du nucléaire? Ça, c'est le président de la République qui le dira. Il s'exprimera sur ce sujet dans les prochaines semaines et il aura l'occasion de dire la stratégie qui est retenue.
Et donc sur ces 6 nouveaux EPR, c'est bien ça?
La stratégie qui est retenue sur notre mix énergétique et sur une relance éventuelle d'un programme nucléaire. C'est le président qui s'exprimera sur ce sujet, mais dans l'intervalle, encore une fois, je pense que c'est important que les différentes formations politiques s'expriment. On a entendu beaucoup d'idéologies sur ce sujet ces dernières semaines et ces derniers mois. Et à la lumière de ce rapport, on ne peut pas expliquer aux Français qu'on peut sortir brutalement du nucléaire ou se priver du renouvelable, parce que c'est nous promettre l'éclairage à la bougie dans les années qui viennent.
À la bougie, vous n'êtes pas un peu trop dans la caricature?
Non, c'est juste clairement dit dans le rapport. Je veux dire, la demande d'électricité va augmenter de 20% dans les 15 ans qui viennent. Comment on fait pour y répondre? Ce qui vous explique qu'on y répond sans augmenter la part de renouvelables, sans augmenter nos investissements dans le renouvelable, ils se trompent totalement puisque la demande d'électricité va augmenter.
Alors c'est intéressant parce que vous faites de ce rapport l'alpha et l'oméga des futures décisions qui vont éclairer la présidentielle. Sauf que par exemple, Yannick Jadot vous dit et dénonce une manipulation du gouvernement et un rapport partiel affirmant que vous faites tout pour justifier ce que vous faites d'ailleurs ce matin, votre relance du nucléaire.
Bah moi, je regrette cette ligne qu'on voit chez les Verts, où finalement, quand ils sont pas d'accord avec des constats, y compris des constats formulés par des experts ou des scientifiques, bah ils expliquent que c'est faux, que c'est de la manipulation. C'est un peu ce qu'on voit, vous savez, chez certains responsables des Verts sur la question des vaccins. Ils sont contre les vaccins, alors ils vous expliquent que les études scientifiques sur les vaccins, elles sont fausses, que les vaccins sont pas efficaces, etc. Là, c'est un peu pareil. J'ai lu ce que disait Yannick Jadot, il dit « Vous n'étudiez pas un scénario de sobriété énergétique ?» Bah si, dans le rapport, il y a 3 scénarios de consommation énergétique qui sont étudiés. Un scénario de ce qu'on appelle sobriété, c'est-à-dire on va consommer moins d'énergie. Un scénario médian et un scénario où on va en consommer plus. Et donc il dit « Bah oui, mais il faut aller plus loin sur ce scénario. » C'est un pré-rapport.
Il dit que vous avez tenu la main de ces scientifiques, en gros, pour écrire ce rapport qui va dans votre sens.
Honnêtement, c'est des organisations indépendantes, c'est des experts. Il y a eu plus de 120 organisations qui ont été consultées, notamment Greenpeace. Je crois qu'il y a eu 4000 réunions qui ont eu lieu depuis 2 ans. Honnêtement, je trouve que c'est insultant vis-à-vis de tous les experts, de toutes les ONG qui ont travaillé à la constitution de ce rapport. On peut pas, quand on n'est pas content parce que ça correspond pas à son dogme, jeter le travail qui a été fait par des experts et des responsables.
Vous avez parlé, Gabriel Attal, de l'éolien. Il y a aujourd'hui un véritable front du refus par rapport à ces éoliennes dans de nombreux territoires de notre pays, notamment les campagnes. Quand ils sont interrogés, les citoyens s'y opposent. Est-ce que vous allez aller contre leur volonté?
Non, justement. C'est-à-dire qu'il faut un développement raisonné de l'éolien.
Mais c'est quoi raisonné?
Ça veut dire qui est
l'arbitre des élégances de ce qui est raisonné?
Ça veut dire qu'il faut de la concertation locale. Barbara Pompili a eu l'occasion ces dernières semaines d'annoncer des mesures supplémentaires sur la concertation. Il ne faut pas que ça soit fait contre les élus locaux.
Pas de concertation. Citez-moi un territoire où il y a eu un référendum.
Justement, c'est qu'elle a annoncé ces dernières semaines des mesures supplémentaires pour améliorer la concertation et le travail main dans la main qui peut se faire au niveau local.
Mais votre ministre est pour qu'il y ait de plus en plus d'éoliennes. Est-ce que vous n'êtes pas en contradiction avec justement certaines lignes dans votre propre gouvernement?
Pas du tout. Ce que disent aujourd'hui tous les experts et ce que valide ce rapport, c'est que de toute façon, dans les 15 ans qui viennent, vu que la demande d'électricité va augmenter très fortement, on ne peut pas sortir des centrales nucléaires en quelques années, il va falloir augmenter les énergies renouvelables qui ne sont pas que les éoliennes. Il y a aussi le photovoltaïque, il y a aussi l'éolien en mer. Mais encore une fois, je pense que tout est question de dosage et du mix énergétique qu'on retient. Ça va faire l'objet de réflexions dans les semaines qui viennent.
J'imagine nos auditeurs qui nous écoutent ce matin en voiture ou chez eux qui me disent « Emmanuel Macron, combien de nuances de vert? Quel écologiste est-il vraiment ?»
Je vais vous dire, pour moi, il y a plusieurs conceptions de l'écologie dans notre pays.
Qui n'est pas une idéologie.
Justement, il y a des idéologies. Vous avez à droite une ligne qui est encore climato-sceptique. Il y a un député LR, encore récemment, qui s'est exprimé dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale aux questions au gouvernement, qui a parlé de prétendu réchauffement climatique, niant l'existence du réchauffement climatique. Vous avez ça à droite. Puis vous avez à gauche, notamment chez les Verts, certains qui vous expliquent que finalement l'écologie devrait se résumer à taxer et punir, et à sanctionner. Et nous, notre vision de l'écologie...
Et vous êtes la voix de la raison.
Ben non, nous, c'est qu'on peut faire la transition...
Est-ce que c'est pas trop facile?
Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Nous, on veut faire la transition en investissant et en accompagnant. Parce qu'on considère que c'est ce qui permet d'aller plus loin. On a triplé le nombre de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui ont été vendus dans notre pays depuis 2 ans. Comment on l'a fait? On l'a pas fait en ne faisant rien, comme le pousse la droite. On l'a pas fait en taxant et en punissant, comme le pousse la gauche. On a essayé un moment avec la taxe carbone, on a vu ce que ça a donné. On l'a fait en développant la prime à la conversion, qui permet d'accompagner les Français financièrement avec une prime à la conversion de 5000 euros, un bonus écologique de 6000 euros. On vient d'ailleurs d'annoncer qu'elle serait prolongée jusqu'au 1er juillet prochain. Et c'est ça qui permet d'aller plus loin et de faire la transition. C'est ce qu'on fait aussi sur la rénovation des logements avec ma prime Rénov. 800 000 ménages qui ont reçu jusqu'à 20 000 euros pour faire des travaux de rénovation énergétique dans leur logement.
Parlons de cet accompagnement financier, Gabriel Attal, parce qu'après l'énergie et le carburant, c'est au tour maintenant du pain, du prix du pain d'augmenter. La baguette de pain pourrait passer le cap symbolique d'un euro. Vous entendez ce qu'ils vous disent, à l'instar par exemple de Valérie Pécresse? À chaque problème, un chèque. Donc, un chèque baguette bientôt?
Non, vous savez, il y a une augmentation des prix qui est liée non pas à la crise, mais à la sortie de crise. Et au fait que la demande augmente, elle augmente sur l'énergie, elle augmente sur les matières premières, et donc les prix augmentent. Et c'est pour ça que le Premier ministre a annoncé la semaine dernière, non pas un chèque carburant, mais une indemnité liée à l'inflation. Parce qu'il n'y a pas que le prix du carburant.
Vous pourrez l'appeler comme vous voulez. Chaque problème, son chèque.
Non, parce qu'il n'y a pas que le prix du carburant qui augmente. Et vous voyez, sur ce sujet du prix de l'énergie, je viens de vous montrer que précisément les décisions qu'on est en train de prendre et les choix qu'on est en train de faire, ils visent à y répondre non pas par un chèque, mais par des investissements pour l'avenir, pour sortir de la dépendance aux fossiles et de la dépendance à des cours mondiaux qui ont un impact sur le pouvoir d'achat des Français.
Il y a l'avenir de la planète, vous connaissez l'expression.
La fin du monde et la fin du mois.
Exactement, la fin du mois.
C'est pour ça qu'on prend des mesures en attendant.
Le problème, c'est que vous avez un problème avec le ressenti de nombreux Français. Vous savez que la question du pouvoir d'achat, c'est une question de ressenti. Les plus modestes vont vous tenir rigueur, Gabriel. Gabriel Attal, de cette cherté de la vie, même si vous affirmez, comme l'a fait le Premier ministre, que le pouvoir d'achat a augmenté sous ce quinquennat.
Mais évidemment que c'est difficile pour beaucoup de Français. Moi, je suis pas là à vous nier les problèmes et à vous dire que les Français vivent parfaitement dans le meilleur des mondes. Ce que je dis simplement, c'est que quand on parle de pouvoir d'achat, depuis le début de ce quinquennat, vous avez près de 500 000 Français qui ont retrouvé un emploi grâce à l'action de ce gouvernement. Et le meilleur moyen d'avoir du pouvoir d'achat, c'est quand même de travailler et d'avoir un salaire. C'est grâce à notre action que le chômage baisse et que
36 millions de Français gagnent moins de 2000 euros par mois. Vous n'aurez pas le choix que d'ouvrir le débat sur les salaires.
Sonia Mabrouk, non seulement on n'a pas attendu la présidentielle pour ouvrir ce débat, on a agi depuis le début de ce quinquennat en augmentant la prime d'activité, en baissant les charges sur le travail, en défiscalisant les heures supplémentaires. Pour un salarié au SMIC, c'est l'équivalent d'un 13e mois et d'un quasi 14e mois depuis le début de ce quinquennat.
Père Noël avant la présidentielle et Père Fouettard après. Qu'est-ce que...
Non.
Après, si, évidemment,
Emmanuel
Macron...
Cette action, elle a commencé en 2017, Sonia Mabrouk. Elle a commencé en 2017 pour mieux rémunérer ceux qui travaillent et notamment ceux qui travaillent et qui ont du mal à joindre les deux bouts. Évidemment qu'il faut continuer à aller plus loin. Ça sera probablement un débat dans l'élection présidentielle. Mais depuis 2017, on a agi sur ce terrain-là. Et je peux vous dire que les Français qui ont retrouvé un emploi grâce à cette action, on sera à la fin de l'année, selon les prévisions, au plus faible taux de chômage connu dans notre pays depuis 15 ans. C'est grâce à cette action. On a, encore une fois, augmenté la rémunération de ceux qui travaillent, notamment autour du SMIC. On souhaite évidemment aller plus loin, et je pense que ça sera un débat dans l'élection présidentielle.
Supprimer le permis à points, comme le propose Éric Zemmour, pour cesser, je cite, d'emmerder les Français et de les racketter, ce sont ces mots, qu'en pensez-vous?
On voit bien là que dans cette pré-présidentielle, vous avez des candidats qui disent il faut être pro-bagnole et des candidats qui disent il faut être anti-bagnole.
Il n'est pas encore candidat, me semble-t-il, non?
Non mais voilà, vous avez des candidats ou des pré-candidats qui disent faut le tout bagnole ou faut le aucune bagnole. Vous avez des candidats qui disent faut supprimer le permis, faut supprimer la piétonnisation. Puis de l'autre côté, vous avez des candidats qui disent faut mettre les 30 km/h partout dans les villes et faut baisser la vitesse sur l'autoroute.
Et vous êtes au milieu encore une fois?
Bah nous on n'est pas pour ou anti-bagnole, on est pour aider les Français. Nous on veut pas dire aux Français comment il faut qu'ils vivent. On veut les aider à vivre le plus écologiquement possible en les accompagnant. Qu'on fasse ce que je vous disais tout à l'heure sur la prime à la conversion pour les véhicules. Voilà, c'est ça notre ligne. On n'est pas là à faire de l'idéologie et à dicter aux Français la manière dont ils doivent vivre en leur disant vous devez vivre avec une voiture ou vous devez vivre sans voiture. On est là pour leur dire vous pouvez vivre comme vous l'entendez. Nous, on va vous aider à vivre le mieux possible et vous aider à vivre le mieux possible en respectant la planète, en vous accompagnant financièrement.
Qu'avez-vous pensé, Gabriel Attal, de la séquence entre Éric Zemmour et cette femme voilée à Drancy qui a ôté quelques instants son voile et l'échange qui s'en est suivi? Qu'en avez-vous pensé de cet échange sur le symbole du voile?
Sonia Mabrouk, moi, j'ai pas envie de participer à cette espèce de Truman Show politique où on aurait vocation les uns et les autres à devenir...
Ça s'appelle pas une campagne?
On aurait vocation les uns et les autres à devenir le décor d'un pré-candidat ou d'un non-candidat à l'élection présidentielle.
Étonnant. Voilà. Je viens de vous poser la question sur le permis à points. Vous y avez répondu comme si c'était un candidat.
J'ai fait une réponse générale en vous disant que aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnalités ou de candidats ou de pré-candidats qui utilisent la voiture comme un moyen idéologique de faire campagne. Voilà. Que nous, c'est pas notre cas. Nous, on n'est pas dans la campagne présidentielle aujourd'hui.
Monsieur Attal,
on n'est pas dans
le président va multiplier les déplacements. C'était une information hier à Europe 1 pour expliquer son action, détailler le plan France 2030. C'est un président candidat.
Vous savez combien de déplacements il a fait depuis le début du quinquennat?
J'avoue que je ne les ai pas tous comptés.
643.
Et donc?
Il y a eu 643 déplacements du président de la République depuis 2017.
Des chèques qui se ramassent à l'appel. Des petits réacteurs qui poussent comme des champignons.
Il n'a pas attendu aujourd'hui pour se déplacer sur le terrain, aller à la rencontre des Français. Et je peux vous dire, c'est même bien qu'il aille à la rencontre des Français.
Mais en quoi ça serait...
Il faut se souvenir, dans les derniers présidents de la République, à la fin de leur mandat, ils allaient plus trop sur le terrain. Parfois, ils pouvaient même pas y aller parce
mais
que ça réagissait trop sur
la
le terrain.
La question est celle de la sincérité. Oui, c'est un président candidat à quelques mois d'une présidentielle.
Je vais vous dire, Sonia Mabrouk, le jour où Emmanuel Macron est candidat, s'il est candidat, et le jour où on sera en campagne, je peux vous dire que ça s'entendra et ça se verra. Et que je serai là sur votre plateau, en train de parler de la campagne, de ce qu'on proposera. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Moi, je vais vous dire, les Français, je n'ai pas le sentiment qu'il soit aujourd'hui totalement focalisé sur l'élection présidentielle. Il se pose plutôt des questions sur leur quotidien, il se pose plutôt des questions sur la gestion de l'épidémie.
Naïf, mais on peut allier déplacement et puis continuer évidemment à présider le pays et allier une campagne.
Il faut surtout continuer à agir, encore une fois. On sort d'une crise historique. Ça serait une faute de notre part de dire on va arrêter d'agir, on va lever le crayon pour se consacrer à l'élection présidentielle. Les Français, ils attendent de nous qu'on réponde à leurs problèmes. Et c'est ce qu'on fait.
Et l'un des sujets reste quand même, il faut le rappeler, et on va conclure par cela, la réalité et le front sanitaire autour de nous en Europe, Gabriel Attal. Certains pays connaissent une nette remontée des cas. Comment vous qualifiez en ce moment la situation dans notre pays?
Il y a une reprise de l'épidémie un peu partout en Europe, à des degrés divers. Ça repart très fort dans les pays de l'Est, c'est même préoccupant. Si on va encore plus à l'Est, en Russie, il y a des niveaux jamais atteints. Ça reprend en Allemagne, ça reprend en Belgique, ça reprend aux Pays-Bas, ça reprend fortement aussi au Royaume-Uni. En France, Il y a un très léger rebond. Pour l'instant, on peut pas parler de cinquième vague. On n'est pas dans une exponentielle. Mais évidemment, ça veut dire qu'il faut continuer à être vigilant. Parce qu'en plus de ça, il y a la grippe qui arrive. Parce qu'il y a la bronchiolite aussi, notamment chez les jeunes enfants qui se développent. Et donc, faut faire très attention. Attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer à respecter les gestes barrières. Garder nos outils comme le pass sanitaire.
Oui, et la ça question veut dire, c'est jusqu'à quand?
Et ça
si
veut
vous
dire pour les personnes.
Un pass permanent, c'est
et
une
ça veut
vraie
dire,
question.
Je termine juste par là, pour les personnes les plus âgées, les plus fragiles, faire le rappel vaccinal. Moi, je lance un appel à nouveau aux personnes qui ont plus de 65 ans, notamment, qui sont éligibles au rappel. Faites-vous vacciner avec la troisième dose. Parce que ce que montrent les études scientifiques, c'est que quand vous avez une certaine fragilité, notamment liée à l'âge, au bout d'un certain temps, environ 6 mois, la protection conférée par le vaccin, elle a tendance à diminuer. Et donc, c'est très important de faire le rappel. Aujourd'hui, on est un peu plus d'un tiers des personnes qui sont éligibles qui ont fait leur rappel. C'est beaucoup. On est au-dessus de la plupart des pays européens. Mais c'est trop peu. Et donc, il faut faire ce rappel.
Merci Gabriel Attal d'avoir été notre invité ce matin sur ces différentes questions. Merci à vous et bonne journée.
Merci Sonia Mabrouk et merci Gabriel Attal.